Bonjour tout le monde, bon midi à Boulevard 102.1. Après 4 jours de congé, très content de vous retrouver à l'antenne. J'aime beaucoup mon emploi, même si j'ai adoré mon week-end, notamment avec ma douce, ma famille. Brunch de Pâques. Ma mère qui s'est fait opérer là, 2 semaines pour un cancer du sein, fait que c'est sa première sortie. Elle était toute contente.
Était émue. Toute la famille ensemble.
Oh oui, elle était émue. Mon neveu Charlot qui a eu 18 ans, la même journée. Fait qu'on a fêté ses 18 ans. Il allait prendre une brosse le soir, j'espère donc. Eh, ma brosse de 18 ans. Ma brosse de 20, ma brosse de 30.
Tu t'en souviens plus, hein?
Oh, ça a été des beaux moments de chum. C'est ce que le beau Charlot allait vivre. Vous, qu'est-ce que vous avez fait de votre long week-end? 418-971-1021 pour nous l'écrire. Êtes-vous découragé du prix du gaz aussi? Il y a des places. C'était 1,99 aujourd'hui, le litre. Et là, Donald Trump qui menace d'anéantir l'Iran. De détruire cette civilisation. On va en parler avec Antonine Iaccarini dans le caucus dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il faut croire du président américain? Donc, textez-nous 418-971-1021. Également, citoyen commercial blvd.fm, si jamais vous avez un dossier important pour Mathias Turcotte, notre journaliste sur le terrain. Il sera avec nous tout à l'heure dans l'émission aux alentours de 13h30, justement. C'est à la une, Journal de Québec, le bordel de sécurité dans les urgences. Il a parlé avec plusieurs personnes. Il va nous faire un résumé de tout cela. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est aussi les meilleurs moments qui se retrouvent immédiatement après l'émission. BLVD 102.1, c'est notre application disponible sur App Store et Google Play Store. Twitch.tv/BLVD/FM. Pour venir nous voir en studio. Haut-parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD 102.1. Ce que j'ai dit tout le week-end, parce qu'on avait la meilleure musique en ville avec Colosse et Dan Caron. C'était un week-end exceptionnel, le meilleur des années 2000. Alors vous dites ceci, on apparaît dans vos oreilles. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, blvd.fm. C'est la meilleure façon d'aller revoir également les meilleurs moments, notamment le caucus avec Antonine Iaccarini, qui est disponible à chaque jour. Pascal Anto, vous avez passé un beau long week-end?
Oui, très bon week-end. Ah, honnêtement, quand on a un week-end de 4 jours, je me dis que moi, je pourrais vivre comme ça. Travailler 3 jours, puis être en congé 4 jours.
Ah, moi aussi. Même si j'adore ma job, là, c'est écœurant ce que tu as le temps de faire en 4 jours. J'ai le temps de tout remettre à jour, mes affaires.
Mais c'est ça, tu fais ta paperasse, ton lavage, ton épicerie, puis après, tu as vraiment du temps pour en profiter avec ta famille.
Parce que quand tu as juste 2 jours, moi, on dirait que c'est une journée complète de ménage, puis après ça, le lendemain, on a un petit peu de temps. Là, tu sais, quand tu as 3 jours ou 4 jours, tu peux vraiment passer 2 bonnes journées à te reposer. Bon, là, c'est sûr, c'est pas que là, des fois, les gens ont des obligations familiales, dépendamment des relations que tu as avec ta famille. Des fois, pour certains, je pense que c'est pas toujours relaxant d'aller bruncher en famille. Nous autres, on était bien contents de le faire. Ça a fait du bien aussi de voir la famille.
Non, c'est ça. Puis, écoute, on est allé manger au resto avec un couple d'amis dimanche soir. On est allé voir un show vendredi soir, Big Muff Acoustic, c'était écœurant. Hein? On s'est fait un souper d'amoureux hier, moi et Val. T'sais, toutes des affaires que dans une fin de semaine de 2 jours, on aurait fait une.
C'est ça, c'est 2 fins de semaine
c'est
en
ça.
Une.
Exactement.
Puis, c'est très bien. Moi, je suis sortie samedi soir et je me suis couchée à 3 h du matin, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et le lendemain, je me suis réveillée à 10 h.
Ouais, dis-moi donc. Là,
ça, c'est tard dans tes yeux, je le vois, là. C'est très tard. C'est quasiment le soir, c'est ça?
J'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. Mais bon, j'en avais besoin, ce qui a fait que je n'étais pas maganée dimanche. Mais honnêtement, la dernière fois, je me suis levée à 10 h. Ouais. Je ne sais pas, c'était quand.
T'es allée au Ninkasi?
Il semblerait, oui.
T'as vu notre collègue Max? L'as-tu entendu chanter?
Max t'a vu, en tout cas.
Ben, en tout cas, il y a des preuves vidéo de plusieurs chants, là. Je peux dire pas qui,
c'était
quoi.
C'était avec consentement, ça, la capture d'image?
Bien sûr que non, mais quand tu vas dans un bar chanter, public, tu peux pas vraiment t'en échapper.
Puis Max, il se sent très bon chanteur. J'aimerais avoir ta note sur 10.
Mais il est quand même bon chanteur. Honnêtement, j'avais entendu des gens dire qu'il chantait mal. Je sais qu'il y a une fille qui avait écrit là, exprès pour dire qu'il chantait mal. J'ai trouvé que c'était très exagéré. Je trouve qu'il chante plutôt bien. Puis étant donné qu'il y a une vidéo de moi qui circule en ce moment, je vais pas planter Max.
Parfait.
OK? Parce que lui, il va me défendre en échange aussi.
Tu vois la diplomate, là.
Oui, voilà, c'est ça. Très bon. 418-971-1021. Antonine est toujours nuancée dans ses propos. Oui ou non, elle est trop nuancée par rapport au talent
attendez,
de Max Larouche.
Je peux pas jeter des cailloux dans une maison de verre. Là. Moi, je suis pas mieux. Là. Vous savez, des fois, je chante parce que quand, Jeff, tu parles de musique ou qu'on met des extraits ou qu'on met, je sais pas, par exemple, Bernard Drinville qui décide de chanter des Cowboys fringants et tout ça, moi, j'ai bien de la misère à pas chanter. Mais je le sais bien que dans les radios des gens, dans leur voiture ou au travail, ça doit pas être super, là. Puis ils ont peut-être le goût de changer pour aller écouter Weekend ou est-ce qu'il y a de la musique avec des gens qui savent chanter. Mais non, ne quittez pas, restez avec nous.
Exactement. Je salue le chum Alejandro qui a eu un dégât d'eau dans son sous-sol pour la fin de semaine
ça,
de
c'est
part.
Moins cool.
C'était intense vendredi, on surveillait ça. Mathias et moi, on faisait l'actualité pas de congé, là. Puis les débordements, les bouches d'égout, il n'y a rien qui réussissait à coopérer avec la météo qu'on avait, là.
Non, ouais, full de pluie encore. Hein.
Oui, mais c'est une belle semaine au niveau de la météo, je vous en parle tout à l'heure. Pascal, avant qu'on passe au caucus et qu'on jase de Donald Trump, des nouvelles appuis pour Bernard Drainville. D'ailleurs, Bernard Drainville est en studio avec nous à 12h30 tout à l'heure. Puis on va également avoir Simon Jolin Barrette qui l'appuie à 12h50 via téléphone. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ce qui vient tout juste de sortir, c'est en relation avec la charge de travail des ambulanciers paramédicaux de la Capitale-Nationale. Donc, il y en a 400 qui ont, en un an, parlé de leur charge de travail qui a augmenté de 6 %. C'est pour atteindre 143% finalement, selon leur syndicat de charge de travail qui est de trop, qui est intense et qui est déploré depuis de nombreuses années. Pour avoir une charge de travail considérée comme normale, il faudrait redescendre à 90 % de tâches. Au printemps dernier, bien, ceux qui travaillent ici dans notre région se disaient déjà au bout du rouleau et pas capables d'être plus sollicités par collègues ou encore par employeurs. Donc, on était déjà au bout du rouleau. Il faut savoir qu'en février dernier, les syndicats avaient d'ailleurs fait un coup d'éclat. On était devant l'Assemblée nationale. On présentait une ambulance chavirée pour donner un peu une image de ce qui se passe en ce moment sur le terrain avec eux. Tu parlais de Bernard Drainville. Eh bien, il y a des gens qui ont décidé de l'appuyer. Hein? Des gens quand même qui ont fait énormément réagir, entre autres Simon Jolin-Barrette, Sonia Bélanger et Jonathan Julien. Ce sont des ministres forts qui se sont rangés derrière Bernard Drainville dans les dernières heures. Il faut savoir aussi qu'en politique, à la chefferie de la CAQ, eh bien, la période de vote commence aujourd'hui. On est là-dedans. Le gagnant va occuper le poste de premier ministre. Il va succéder à François Legault, je vous rappelle, et ça va être connu dimanche le 12 avril. On parlait de dizaines d'armes dangereuses qui ont été saisies dans les urgences québécoises en 2024. Ce sont des chiffres qui ont été obtenus par le Journal de Québec. Fusil à plomb, couteau de chasse, marteau, seringue souillée, arme à feu qui figure aussi parmi les objets qui ont été confisqués. C'est une violence en milieu hospitalier qui est en hausse. Mathias va nous en parler un peu plus tard à l'émission. Les frères Maris vont verser environ 25 millions de dollars à des victimes d'abus sexuels commis partout au Québec sur plusieurs décennies. C'est une entente à l'amiable qui a été conclue avec des avocats, les avocats des plaignants, quelques jours avant le début d'un procès. Ça devait s'ouvrir aujourd'hui. Et on parle de l'Iran. Bien, la guerre au Moyen-Orient, dès ce soir, va prendre une autre tournure. Du moins, c'est ce qu'avance Donald Trump, président des États-Unis. Il dit qu'en ayant menacé fortement l'Iran, il y a une société complète qui sera détruite, une civilisation entière qui va s'éteindre ce soir à jamais. Il ne le souhaite pas, mais il dit que c'est probable. Donc, dès 20h, on attend des frappes importantes des États-Unis.
Merci beaucoup, Pascal. C'est très apprécié. Je vous rappelle, Bernard Drainville, 12h30, justement, pour parler de cette semaine de vote pour la course à la chefferie de la CAQ et élire le futur premier ministre ou la future première ministre. Simon Jolin Barrette en entrevue, 12h50, pour son appui à Bernard Drainville. On a reçu Sonia Bélanger ce matin dans Marceau le matin. Ça se retrouve sur le blvd.fm.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iaccarini, c'est un segment du lundi au jeudi de midi à 12h30 dans l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Open the fucking straight, you're crazy bastard, or you're believing in hell. C'est le truth de Donald Trump cette fin de semaine pour l'Iran. Et là, aujourd'hui, il en rajoute en disant « Une civilisation entière va mourir ce soir. » Bon, je ne sais pas quoi dire on est dans un mauvais film.
Ben moi, je trouvais qu'on était dans une chanson de métal quand tu as commencé à le citer.
Oui, c'est vrai. Hein?
On était comme dans du death metal
ou
je sais pas quoi.
Oh, ben, le fucking straight!
Bon, on rit, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est
non,
drôle.
Non, tellement pas.
Bon, Donald Trump est tanné que le détroit d'Ormuz soit fermé. Hein? Puis je veux juste quand même noter au passage que le détroit était ouvert avant les attaques.
Oui, ça allait bien. Les pétroliers passaient, puis 20% de la production mondiale passait par le détroit d'Ormuz. Ça allait pas bien en Iran, on s'entend. C'est le pire régime dictatorial de l'histoire, là, avec tous les civils qui ont été tués. Là.
Mais là, l'objectif de Trump, c'est d'ouvrir le détroit.
Oui.
Il était déjà ouvert. Donc, les objectifs de la guerre ont changé en cours de route. Là. Mm-hmm. On est d'accord, là, parce que c'était pas, je veux dire, c'était pas pour ouvrir le détroit. Il était déjà ouvert.
D'ailleurs, on n'a jamais su vraiment l'objectif principal de cette guerre-là.
Bien, faire plaisir à Israël en fait certainement partie.
Oui, ça faisait partie des objectifs. C'est sûr de sortir Khamenei, qui était le grand dictateur. Oui,
mais des dictateurs, il y en a dans plusieurs pays dans le monde. Mm-hmm. Et c'est pas, ça ne peut pas être la seule. Le seul objectif, parce que sinon, ben, on en jasait quand la guerre a commencé. Est-ce que Vladimir Poutine, c'est un régime qu'on a envie d'approuver? Pas ben nécessairement. Non. Est-ce qu'il a attaqué des voisins, bien sûr, comme l'Iran attaque, mais de manière un peu différente en finançant du terrorisme notamment. Donc, Trump est tanné. Donc, si l'Iran ne laisse pas circuler les bateaux, il a lancé un ultimatum qui en gros, signifie qu'on veut anéantir carrément l'Iran. Je veux juste vous dire que selon le droit international, c'est un crime de guerre de s'en prendre à des civils ou à des infrastructures publiques essentielles.
Parce que là, on veut démolir des ponts et on veut démolir, justement, les bâtiments énergétiques, les centrales énergétiques. Merci.
T'sais, imaginez, là, demain matin, là, on n'a plus d'électricité.
Ouais.
Imaginez votre vie, là. Des fois, on a des pannes pendant un après-midi, puis c'est quand même disruptif dans vos vies, là.
On fait juste perdre le Wi-Fi, puis on capote.
Imaginez, on peut repenser à la crise du verglas dans les années 90. Les gens ont manqué d'électricité pendant plusieurs jours. C'est dramatique, là, de perdre l'électricité. Donc, on s'en prend à des civils quand on les prive d'électricité comme tel. Mais... il y a des gens, des experts qui disent que M. Trump pourrait reculer et faire reculer son ultimatum de jour en jour. Est-ce que ça vous dit quelque chose de manière moins dramatique, les tarifs?
Ça nous dit au niveau de la guerre des tarifs, là, où on disait... C'était chicken?
Taco.
Taco.
Trump always chickens out.
C'est ça.
Ce qui veut dire que Trump fait des menaces, mais que finalement, il les met pas toujours à exécution, ce qui fait en sorte qu'on en prend et on en laisse maintenant dans ce qu'il dit. Par contre, c'est une loterie. C'est un peu comme une roulette russe. On sait pas quand finalement il va se décider à poser un geste impulsif un geste très, 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 très fort. Donc, c'est possible là, que finalement, il y ait une opération militaire qui soit lancée puis que ce soit... Sans parler d'anéantissement, là, qu'il y a une escalade, du moins.
Puis on dirait que ce qui est risqué avec lui, c'est quand il perd la face, quand finalement, il se rend compte que c'est son erreur, il va frapper encore plus fort.
Devient dangereux.
Non pas parce qu'effectivement, les autres ont répliqué, mais parce que lui est en train de perdre la face.
Oui, puis il faut le rappeler, là, ça fait 38 jours que la guerre est débutée. Donc, c'est déjà un peu humiliant pour lui, parce que dès le départ, il nous disait qu'en 3 jours, ce serait réglé.
Oui, puis là, après ça, la semaine prochaine, tu sais, ça fait 4 fois qu'on entend ça. Là.
C'est
ça. Il reste juste une semaine à cette guerre-là.
Et les conséquences de la fermeture du détroit sont énormes. Et je veux juste rappeler que M. Trump s'est fait élire sous la promesse de ne pas commencer à faire le shérif partout dans le monde.
Exactement.
Donc, il est allé déjà à l'encontre plusieurs fois de cette promesse-là. Mais qu'en plus, on promettait de réparer l'économie. Bien, c'est sûr que quand les prix à la pompe augmentent et que tous les prix, tu sais, on le sait, là, quand le prix de l'essence augmente, ça a des conséquences sur toutes les chaînes logistiques, toutes les chaînes de valeur. Bien, c'est dur pour les Américains de voir qu'il y a une amélioration de l'économie dans ce temps-là. Et dans quelques mois, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est les élections de mi-mandat. Donc, c'est un moment qui est très critique pour le président qui pourrait perdre le contrôle des chambres législatives. Puis aux États-Unis, c'est très grave de perdre le contrôle des chambres parce que le pouvoir législatif a plus de poids que dans notre système politique où le premier ministre est un peu tout-puissant, peut faire toutes sortes de choses, peu importe là, vraiment les députés comme tels. Bien, aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça marche. Là.
Gabriel Giguère va être avec nous aux alentours de 13h10 pour parler justement du prix de l'essence. Hey, 6$ le gallon en Californie à matin.
Ils doivent pas triper.
C'est fou. T'sais, on se plaint à 1,99 ici du litre, je comprends. 6$ le gallon, c'est encore plus cher.
Oui, puis c'est un sujet encore plus sensible aux États-Unis qu'ici.
Ben oui.
Oui, puis tu sais, on parlait des impacts en général sur notre vie, puis je pense que c'est les impacts les plus importants là, sur l'inflation, sur les produits et tout ça, mais il commence à avoir annulation de des choses qui sont autour auxquelles on ne pense pas. Je vais faire la partie, vous le savez, moi, mon copain, il fait de la course automobile, mais avec le prix de l'essence qui a augmenté, puis du côté des Émirats arabes unis et tout ça, habituellement, il y a des courses. Mais c'est toute une industrie qui est en train de chauffer aussi à ce niveau-là.
C'est sûr.
Et on va voir du divertissement. Oui, mais aussi beaucoup d'effets collatéraux.
Et pour avoir un effet même sur le tourisme, parce qu'on le sait, là, les Canadiens et Québécois voyagent moins à l'étranger pour toutes sortes de raisons, insécurité mondiale. Après ça, on allait beaucoup aux États-Unis, on y va moins. Donc, on veut voyager au Québec, mais les distances sont grandes au Québec. Est-ce que, par exemple, les régions plus éloignées, comme la Côte-Nord, la Gaspésie, ben là, on parle, évidemment, je suis très québéco-centriste et montréalo-centriste quand je le dis.
Mais c'est bien correct.
Mais ça augmente tes frais de vacances, là, si en plus tous les prix augmentent. On a eu une réaction de Mark Carney ce matin à propos des menaces de Donald Trump. Lui dit que les propos publics de M. Trump ne reflètent pas les discussions en privé. Donc, il y a un discours très belligérant, très dans l'escalade, alors qu'en privé, ce ne serait pas le même ton. Fort bien. Je ne sais pas s'il faut être encouragé par ça ou pas, de toute façon, avec M. Trump.
On peut avoir le même ton aux deux places, s'il vous plaît.
Ben, moi, c'est juste que ça m'évoque encore une fois qu'on a l'impression que le peuple, les citoyens, sont hors du coup. C'est comme si on ne savait pas vraiment ce qui se passe. Puis je trouve au Canada, on n'est pas impliqué directement dans le conflit, mais tout le monde est un peu concerné, évidemment. J'ai l'impression qu'on n'a pas de vraie discussion publique sur ces enjeux-là. On a comme, c'est comme si on était à la table des enfants, puis il y a des discussions à la table des adultes en ce moment auxquelles on n'a pas accès. Je trouve qu'on n'est pas dans un grand moment de transparence en ce moment.
Pas dans un grand moment de démocratie, non, on ne se le cache pas.
On ne se le cachera pas, puis c'est sûr... Évidemment, quand on parle de guerre, de tactique de guerre, on ne peut pas commencer à dire ben, « La semaine prochaine, écoutez-moi bien les citoyens, on va attaquer cette infrastructure-là. » C'est bien sûr. Mais je trouve qu'on est vraiment dans une grande, grande opacité en ce moment.
Oui, tu as raison. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton point. Dépendamment de ce qui va se passer ce soir, 20h en Iran, demain, évidemment, on va en reparler dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Et aussi, on aura Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, et assurément Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine dans l'émission. Donc, on va vraiment traiter de ce qui va se passer ce soir parce que malheureusement, ça pourrait être un moment historique.
Oui, on espère qu'on ne sera pas dans l'escalade, mais c'est possible.
C'est ça. Donc, on va suivre le tout attentivement à l'émission On en jase et à toutes nos émissions sur Boulevard 102.1, que ce soit Marceau le matin à compter de 6h ou le Point de Max avec Catherine Bachan maintenant à compter de 10h avec Max et Catherine Bachan. Antonine, gros coup hier en ce lundi de Pâques, telle la résurrection du Christ. Ouais.
Ou bien un cocoton où on a trouvé plein de beaux cocos là, pour Bernard Drainville.
Bernard Drainville est allé chercher 3 appuis importants. Sonia Bélanger, la ministre de la Santé, Simon Jolin-Barrette, qu'on va avoir en entrevue à 12h50, le ministre de la Justice, et Jonathan Julien, le ministre des Transports. Coudonc, c'est pas une course facile pour Christine Fréchette?
Bon, c'est vraiment intéressant de voir les tactiques des deux candidats. Parce que t'as du côté de Mme Fréchette, c'est la tactique du meneur. Hein. Puis Mme Fréchette, je veux juste rappeler qu'au début, là, quand M. Legault a démissionné, on faisait nos prédictions qui pourrait être successeur. Le nom de Christine Fréchette apparaissait même pas. Là.
Non, en effet.
Donc, elle, son jeu, ça a été de donner un grand coup dès le départ pour montrer une crédibilité puis dire « Moi, je suis solidement positionnée pour pouvoir remplacer François Legault. »
Bien, énormément d'appui dès le départ de nombreux ministres. Je pense notamment à Mathieu Lacombe, qu'on avait eu en entrevue, ministre de la Culture.
Absolument. François Bonnardel. Il y a eu plein d'autres ministres qui ont appuyé, notamment Éric Girard maintenant. Il y a eu aussi France-Hélène Duranceau, Jean-François Roberge.
Jean-François Roberge, Martine Biron, qui est la députée à côté de Bernard à Lévis, qui est allée avec Mme Fréchette présenter le plan de mobilité à Québec.
Donc, Mme Fréchette a dépensé beaucoup de cartouches dès le départ parce qu'elle voulait faire un gros feu d'artifice. Fait que là, c'est comme paf, au début, là, avec un gros lancement, puis haut en couleur et tout ça. Mais c'est sûr que c'est dur de maintenir un feu d'artifice tout le long d'une campagne. Du côté de M. Drainville, un départ plus lent. Ça a été un petit peu plus difficile du côté des appuis. Quelques appuis intéressants quand même. Bien surtout, c'est que les appuis à M. Drainville, c'était plus dans les employés politiques. Puis ça se voit moins. Tu ne fais pas une annonce pour dire que tous les directeurs de cabinet appuient, mais il y en a beaucoup qui l'appuyaient quand même.
Oui, ou chez les jeunes députés, parce qu'on avait vu une Karianne Bourassa, un Samuel Poulain l'appuyer. D'ailleurs, Samuel